VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. En RDC, la famille d'une des victimes de la répression des marches de catholiques dans la capitale pour protester contre le régime du président Joseph Kabila attaque le chef de la police de Kinshasa en justice pour assassinat. La famille Kapangala a porté plainte contre le général Silvano Kasongo et les éléments de la police congolaise sous son commandement en date du 21 janvier 2018 pour l'assassinat de Thérèse Kapangala Mwanza, 24 ans, devant l'église Saint-François de Sales à Kinshasa. Fille d'un officier de police, Thérèse Kapangala a péri le dimanche 21 janvier en marge des marches organisées dans la capitale congolaise pour un collectif proche de l'église catholique, le comité laïque de coordination. Une quinzaine de personnes ont été tuées dans la répression de ces marches interdites par les autorités les 31 décembre et 21 janvier, selon les Nations Unies et l'épiscopat congolais. Mais les autorités congolaises ne reconnaissent que deux morts le 21 janvier, dont la victime qui fait l'objet de la plainte. Le comité laïque de coordination préconise une nouvelle marche de protestation le dimanche 25 février, un appel soutenu par l'opposition et la société civile congolaise. Au Congo-Brazzaville voisin, le conflit armé dans le Poule, région proche de la capitale, a causé le déplacement de plus de 130 000 personnes, des déplacés qui ne reçoivent pas régulièrement l'assistance nécessaire. D'où l'appel des organisations humanitaires, dont Caritas Congo, en faveur d'une aide plus structurée dans le Poule. De Brazzaville, le reportage de Nguelan Goussou, notre correspondant sur place.
Depuis leur sortie des villages, plusieurs familles des déplacés du Poule attendent toujours d'être prises en charge par les autorités. Leur situation, déjà dramatique, se dégrade au jour le jour, voici deux ans. Joe Washington Ebina, à la tête d'une fondation qui assiste souvent ces sinistrés, déplore ce manque d'assistance.
On doit trouver des solutions, mais vous n'avez pas l'impression que depuis un certain moment, on ne parle plus de rien. On parle de cessez-le-feu, qui est une bonne chose, mais à part cela, les populations, qu'est-ce qu'on dit des populations? Et ça, c'est un problème. Et moi, je considère simplement que c'est un abandon.
Caritas Congo indique que l'assistance qui s'organise autour de ces déplacés est encore très insuffisante. Alain Robert Moukouri est le secrétaire exécutif de Caritas Congo.
En termes de besoins humanitaires, il y a une réponse, mais elle est encore insuffisante, parce qu'il y a aussi des besoins en termes d'accès aux soins de santé. C'est vrai qu'on a des programmes avec l'UNICEF, mais avoir une couverture plus structurée et élargie sera une bonne chose pour soulager les besoins des déplacés.
Dans les familles d'accueil où elles vivent, ces populations traversent des moments de grande misère. Pascal Babakana, un déplacé de Mabenga installé dans une famille en Gangalingolo, témoigne à VOA Afrique.
Depuis que je suis arrivé ici, mais ce jour, on s'est débrouillé pour avoir quelque chose. Aller d'abord en brousse, chercher quelque chose à manger, vendre même le bois. C'est ce que nous amenons ici, là, pour vivre. Il faut amener le bois et venir vendre ça à Gangalingolo.
D'autres déplacés racontent ici leur déboire à Brazzaville.
Mais on dort seulement sur la terre. Pas de moustiquaires, vraiment, on souffre, on doit repartir, même s'il n'y a plus rien, mais on doit repartir, parce que ici, là, vraiment, ça ne tient pas.
Ma situation à Brazzaville est très malheureuse. Il y a des moments où je passe les nuits dans les marchés, il y a des moments où je passe les nuits dans les vieilles funèbres. Oui, jusqu'à ce jour, rien de concret, rien de concret.
Récemment, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Todd Haskell, a apporté une assistance à ses déplacés. L'ONG Lucudoc, par son président Gaspard Mienantima, évalue ici la distribution de cette aide, accusant par ailleurs le gouvernement de n'avoir rien fait jusqu'alors.
Tout dernièrement, nous avons appris que les Américains, effectivement, venaient encore de servir quelques déplacés. Nous avons fait la ronde des ménages pour vérifier si tout le monde, cette fois-ci, a été pris en ligne de compte. Malheureusement, c'est le même scénario qui revient. Une partie a été servie, une partie délaissée pour compte. Pourquoi cette discrimination, d'abord abandonnée jusqu'aujourd'hui par notre gouvernement, qui jusque-là ne fait aucun geste sur ces déplacés?
Après la signature des accords de paix dans le Poule, les populations attendent désormais le calendrier de retour dans leur village. Nguelan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Togo, début ce lundi du dialogue entre pouvoir et opposition pour tenter de trouver une sortie à 6 mois de crise politique. Le régime du président Faure Gnassingbé fait face à une très forte contestation populaire qui a plongé le pays dans l'instabilité. Éric Maniratiza.
Le rétablissement de la constitution de 1992 qui prévoyait 2 mandats présidentiels, la transition politique au Togo et les réformes électorales constituent les points essentiels de ces assises. La coalition de 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir unir sont représentés par 7 délégués. La participation du gouvernement devrait être discutée durant le dialogue. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'un des facilitateurs de cette crise, va accompagner l'ouverture des discussions. L'ONU, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis à Lomé ont salué la tenue de ce dialogue. Les acteurs politiques togolais sont encouragés à travailler de bonne foi pour aboutir à un consensus. Ces dernières semaines, l'entourage de Faure Gnassingbé a répété dans la presse locale qu'il ne serait pas question de discuter du départ immédiat du chef de l'État ni d'un engagement de sa part à quitter le pouvoir. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les Togolais sceptiques et critiquent la tenue d'un énième dialogue depuis l'avènement du multipartisme au début des années 90. Une quinzaine de dialogues et de pourparlers se sont tenus à Lomé sans jamais déboucher ni sur une alternance politique ni sur un changement majeur.
Au Nigeria, la justice nigériane a libéré 475 nouveaux membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram. À l'issue de ces procès de masse dans la localité de Kainji, la majorité des personnes inculpées n'a pas été condamnée faute de preuves suffisantes. Mohamedou Mfa.
D'après le ministère de la Justice, des centaines de membres présumés de Boko Haram ont comparu la semaine dernière devant un tribunal installé dans une base militaire à Kainji, dans le centre du pays. Les personnes libérées seront prises en charge dans leurs états d'origine pour une réhabilitation appropriée. Le tribunal a aussi ordonné à ces états de leur fournir une réhabilitation avant qu'ils ne retrouvent leur famille. Les personnes atteintes de troubles mentaux ou avec des problèmes de santé doivent également recevoir des soins médicaux appropriés. La majorité des procès, les premiers du genre au Nigeria, se sont déroulés à huis clos, entraînant les critiques des organisations de défense des droits de l'homme. Au total, 1669 personnes étaient présentées à la barre à l'ouverture des audiences qui avaient démarré en octobre. Un premier groupe de 468 avait alors été libéré au bout de quelques jours.
Burkina Faso, le réalisateur et producteur burkinabé Idrissa Ouédraogo est décédé hier à Ouagadougou à l'âge de 64 ans. Auteur d'une quarantaine de films, il a été une figure emblématique du cinéma africain des années 1980 à l'an 2000 et a obtenu des prix dans les plus grands festivals. À preuve, Idrissa Ouédraogo s'est vu attribuer le premier étalon de Yenenga du FESPACO. Les commentaires d'Étienne Minongou, président du Festival des Récréatrales au Burkina Faso.
Idrissa Ouédraogo a toujours considéré que le cinéma devait aider l'Afrique à avancer, devait raconter la mémoire et le récit des populations, que le cinéma devait accompagner tout effort de développement et que, en même temps aussi, c'est par le cinéma que l'Afrique pouvait aussi aller au rendez-vous avec les autres civilisations du monde. Il avait un souci majeur. Il n'aimait pas la manière dont l'Occident se représentait l'Afrique. Il avait envie que ce soit les Africains eux-mêmes qui présentent au monde entier le propre visage de leur continent. Et donc, tout son travail, il était attentif à cela. La présence de l'Afrique dans le monde, sa présence authentique, mais en même temps aussi, un cinéma militant parce qu'il pensait que le cinéma pouvait participer à l'amélioration des conditions de vie des populations, à l'expression de leur liberté, leur créativité, et surtout pouvoir les mobiliser aussi sur les chantiers de développement et sur les chantiers de bien-être. J'étais absolument convaincu là-dessus.
Étienne Minongou, président du Festival des Récréatrales au Burkina Faso. Et pour terminer ici aux États-Unis, les survivants de la récente tuerie dans une école de Floride comptent manifester fin mars à Washington pour réclamer un contrôle plus strict des armes à feu. Fatouma Alimassi.
Baptisée Marche pour nos vies, la manifestation de Washington devrait inspirer d'autres rassemblements à travers le pays. D'après l'un des organisateurs, l'objectif est de créer une nouvelle normalité où ce serait considéré comme une honte pour les hommes politiques d'accepter l'argent de la NRA. De nombreuses voix se sont élevées depuis le massacre pour dénoncer la mainmise sur le monde politique du puissant lobby pro-armes National Rifle Association, NRA, qui défend la vente libre des armes personnelles. Le lobby s'oppose en effet à toute limitation au nom du deuxième amendement de la Constitution qui garantit le droit de posséder et de porter une arme. Emma Gonzalez, une étudiante, estime que tous les étudiants américains devraient s'impliquer dans ce débat car tous courent le même danger.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.